Ils ont réussi leur pari fou, faire un tour du monde à bord d'un avion fonctionnant à l'énergie solaire. Les deux noms des Suisses Bertrand Piccard et André Borschberg sont désormais indissociables de l'aventure Solar Impulse. Ils ont donc navigué autour de notre globe à bord de leur oiseau géant, 72 mètres d'envergure, avec 17 000 cellules photovoltaïques. Ils racontent leur aventure et les enjeux de cet exploit dans un livre qui paraît chez Stock. Ils sont mes invités dans un instant et ils répondront à vos messages sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Une question posée aujourd'hui à la une de la science, y aura-t-il des touristes autour de la Lune à la fin 2018?
Et Elon Musk, le patron de SpaceX, a promis hier soir que oui, mais Philippe Hénarejos, rédacteur en chef du magazine Ciel et Espace, n'y croit pas du tout. Il nous explique pourquoi il ne faut pas tomber dans le piège du buzz dans un instant.
Et puis comme tous les mardis, nous retrouverons la chronique de science improbable de Pierre Barthélémy, consacrée à une étude sur la prime à la beauté. Stéphanie Texier réalise cette émission préparée par Chantal Le Montagnier.
La tête au carré. Le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
L'aventure Solar Impulse dans un instant dans notre dossier avec mes invités et ses protagonistes Bertrand Piccard et André Borschberg. Bonjour.
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 Vous avez donc réussi ce tour du monde dans un avion solaire monoplace. Est-ce que la preuve est faite que l'énergie solaire et les technologies propres sont vraiment aujourd'hui à portée de main pour faire fonctionner des avions beaucoup plus gros, Bertrand Piccard?
Je serais fou de vous répondre oui et idiot de vous répondre non. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les technologies ne permettent pas à Solar Impulse de transporter 200 passagers. Mais les technologies ne permettaient pas non plus à Lindbergh, quand il a traversé l'Atlantique, de transporter 200 personnes. On voit qu'il faut d'abord des pionniers, puis ensuite c'est l'industrie qui prend le relais, qui développe et qui continue.
André Borschberg, c'est quand même une étape très importante.
Mais c'est la première fois qu'on a un avion qui a la possibilité de voler pratiquement de manière illimitée. Donc on est indépendant finalement de l'énergie qu'on embarque au sol, on la collecte directement sur l'avion. Mais ce qui est encore plus important, c'est que c'est une étape, je pense, clé dans le développement de l'aviation électrique, qui a un potentiel extraordinaire.
43 000 kilomètres, plusieurs étapes, sans une seule goutte de carburant. On va revenir évidemment sur l'objet de votre voyage et ce récit que vous racontez. On en parle donc dans un instant avec les messages des auditeurs. Les touristes voyageront-ils bientôt autour de la Lune? C'est aujourd'hui à la Une de la Science.
Juste un appel.
Nous devrions recevoir les premières images, il continue son annonce. Mais en tous les cas, ce qui est certain, c'est que les premiers commentaires qui ont été envoyés par les astronautes sont assez décevants. En effet, leur première réaction a été la suivante, oh, c'est pas très beau, c'est tout gris.
Du plâtre, oui.
Ils étaient un peu déçus d'avoir fait tout ce voyage pour découvrir quelque chose d'aussi triste que la Lune.
Voilà, la Lune, c'est triste et c'est comme du plâtre, donc c'est assez moche. Le 25 décembre 1968, c'était les astronautes de la mission Apollo 8 qui découvraient la face cachée de la Lune en direct à la radio. Et donc, 50 ans plus tard, l'année prochaine peut-être, deux touristes à leur tour pour une balade autour de la Lune dans une capsule. C'est en tout cas ce qu'a promis hier le dirigeant et fondateur de la société SpaceX, Elon Musk. Philippe Hénarejos, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes rédacteur en chef du magazine Ciel et Espace, vous êtes notre rabat-joie de service, car oui, ce projet, vous n'y croyez absolument pas.
Non, alors attention, il y a deux choses. Ce projet est faisable, avec les fusées qui sont en construction, en développement, on va dire aujourd'hui, chez SpaceX, et avec éventuellement sa capsule qui s'appelle Dragon 2. Alors c'est la deuxième version d'une capsule qui existe déjà et qui sert de cargo automatique pour la Station Spatiale Internationale. Donc c'est faisable, mais pas à la fin de 2018, ça c'est à peu près clair.
Alors, racontez-nous quand même quel est le projet d'Elon Musk. Qu'est-ce qu'il veut faire vraiment?
D'abord, les faits.
Oui.
Il veut envoyer donc à l'aide d'une fusée qui s'appelle Falcon Heavy, Falcon lourde. Il y a déjà la Falcon 9 qui existe. Alors, ça consiste à trois Falcon 9 mises en grappe, collées les unes aux autres pour avoir plus de puissance. Donc, cette fusée qui n'a encore jamais volé devrait emporter une capsule habitée par deux personnes dont on ignore tout. Il n'y a pas révélé l'identité des candidats.
Si ce n'est qu'elles sont très riches, évidemment.
Ah ben ça, on s'en doute. Mais quelle que soit leur richesse, ils ne paieront pas le prix fort parce que c'est extrêmement cher d'aller, d'aller dans un vaisseau spatial. Donc cette fusée devrait emporter en direction de la Lune deux personnes à bord de cette capsule. Alors ce ne sera pas comme Apollo 8 en 1968, où il y avait eu une satellisation autour de la Lune, puis un départ où il faut un moteur pour s'arrêter, pour se satelliser, puis il faut un moteur pour repartir. Là, ce sera ce qu'on appelle une trajectoire de retour libre, c'est-à-dire c'est un tir balistique, et avec la gravitation de la Lune, elle infléchit la trajectoire, on fait le tour de la Lune, assez loin d'ailleurs, hein, on n'est pas au rasemote comme Apollo 8, c'était 100 à 200 km au-dessus de la Lune, là ce sera plus loin, et puis naturellement on revient vers la Terre sans toucher aucun bouton, je dirais. Et donc les astronautes, les candidats astronautes en l'occurrence, ne sont pas des astronautes, ce sont des passagers comme presque vous et moi, à part qu'ils sont très riches. Donc ils ne comprennent pas mieux que nous comment on pilote un vaisseau, bien sûr ils sont formés, mais on sait que dans l'espace, quand ça commence à tourner mal, ça tourne très très mal, et il vaut mieux être expérimenté quand même.
Mais alors, le problème avec 2018, c'est quoi? C'est qu'il n'aura pas le temps de faire assez de tests?
Voilà, c'est ça. Il faut savoir une chose, c'est que SpaceX est sous contrat avec la NASA pour faire cette capsule Dragon 2 pour amener les astronautes de la NASA vers l'ISS. Et que normalement, le contrat stipulait que c'était à partir de 2018 que ce petit train, ce petit taxi, commençait à se mettre en marche. Sauf que il y a encore 10 jours, un des administrateurs de la NASA a fait part ouvertement des craintes que SpaceX et un autre concurrent privé qui s'appelle Boeing ne seraient sans doute pas à l'heure. Ils ont déjà 15 mois de retard sur le développement de leur capsule. Il doit y avoir normalement un vol à vide, sans personne.
Il faut espérer qu'il y ait un essai quand même.
Voilà. Courant cette année, il devrait y avoir un premier test en mai 2018 avec éventuellement personne à bord, et puis un autre test fin 2018. On voit déjà que pour arriver à tenir ce contrat-là qui consiste juste à aller vers l'orbite terrestre, la NASA a des doutes et commence à se dire « Ah, on n'a pas acheté des sièges à bord des Soyouz, qui est le seul vaisseau qui fonctionne actuellement pour aller vers l'ISS. On ne les a pas achetés pour 2019. » Et donc on envisage éventuellement un plan B, en quelque sorte, avec des longs séjours de type un an des astronautes pour avoir évité d'acheter ces sièges qui, de toute façon, n'ont pas été achetés. Donc, c'est trop tard. Donc, il y a des doutes du côté de la NASA et on peut leur faire confiance puisqu'en matière de développement spatial, ils s'y connaissent un peu. Et j'ajoute que pour ce voyage lunaire, il y a un deuxième sujet d'inquiétude qui est la fusée lourde dont je parlais tout à l'heure, qui n'a jamais volé.
Ils l'ont pas testé. Ouais.
Qui l'ont pas testé parce que elle a des retards au développement. C'est compliqué. Même si on sait faire, ça reste compliqué. Et elle aurait dû voler en 2015 pour la première fois. On voit que les retards se sont accumulés. Et là, on parle aujourd'hui d'un premier vol à l'été 2017. Ça pourra glisser à l'automne. Évidemment, quand on parle d'envoyer des gens à bord d'un vaisseau qui est propulsé par une fusée, il faut en plus qu'il y ait un certain taux de fiabilité. Et ça demande des tests préalables. Ça demande des vols à vide, que ce soit de la fusée ou du vaisseau. Après, sinon, on prend un risque fou.
Oui.
Mais alors, la Russie l'avait pris ce risque fou en 1967 avec Soyouz. Il y avait eu 2 vols à vide. Déjà, il y avait eu 2 vols quand même. Le vaisseau marchait pas bien. Mais à l'époque, les dirigeants de l'Union soviétique, je crois que c'était Léonid Brejnev, avaient poussé politiquement pour faire quand même ce vol. Et ça, c'était terminé par la mort du cosmonaute Vladimir Komarov. Le vaisseau n'était pas prêt.
Bertrand Piccard, André Borchberg, une réaction sur cette annonce d'Elon Musk pour 2018, donc ce petit tour autour de la Lune.
Moi, ça me met, je pense, André aussi, 13-14 ans en arrière, quand on a parlé de Solar Impulse, on nous a aussi dit ils ne seront pas prêts, ça ne marchera pas, c'est trop tôt, la technologie ne le permet pas.
Oui, mais vous aviez
et
pas
à quoi
un
est-ce
an.
Que ça sert.
Vous n'aviez pas un an.
Mais ce qu'on a vu, c'est que le projet a coûté plus cher que prévu, il a duré plus longtemps que prévu, mais on y est quand même arrivé.
Oui, mais il a fallu
donc
du temps.
Je pense que ce qui est important dans ces projets, c'est plutôt de voir ce qui peut marcher que de voir ce qui ne peut pas marcher. Je trouve qu'Elon Musk a beaucoup de courage de lancer ce projet. Peut-être qu'il sera en retard, mais au moins il le fera. Et ça, je trouve génial.
André Borchberg.
Non, mais c'est vrai qu'on rigolait il y a 7 ans quand il a fait ses premiers projets, énoncé sa vision sur le développement de ses activités spatiales. Personne ne voulait lui donner de la technologie pour créer sa première fusée. Aujourd'hui, il alimente l'ISS qui est déjà assez extraordinaire. Sa vision, c'est Mars. La Lune, c'est l'étape intermédiaire. Je suis 100% d'accord avec Bertrand. Très probable que ce n'est pas pour l'année prochaine, mais il aime bien des objectifs agressifs. Je pense que ça stimule ses équipes, ça stimule tout le monde. C'est très probable que ça sera plus tard, mais ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est d'essayer et ensuite, c'est d'y arriver. Il y arrivera.
Alors, Philippe, 2018, 2022, 2026, les touristes iront dans l'espace, mais quels touristes? Est-ce qu'on peut vraiment imaginer que ça se démocratise?
Se démocratiser, je ne sais pas, on parlait tout à l'heure de la traversée de l'Atlantique, c'est sûr que quand Lindbergh a commencé, on n'imaginait pas ça. Pour le spatial, je crois qu'il y a quand même encore un obstacle vraiment... On est dans un palier supplémentaire. Ça reste compliqué, ça reste beaucoup plus dangereux que l'aviation. L'aviation, c'est déjà très dangereux. Alors, on a acquis une fiabilité énorme, mais vous voyez le temps qu'il a fallu pour que des gros avions transportent beaucoup de personnes. Là, les vitesses, les énergies, le milieu, tout ça, c'est une hostilité incroyable. Ça coûte très très cher, ça demande beaucoup de développement et puis surtout, on va bien voir. Là, moi, je ne crois pas que ça va se démocratiser très très vite. Je crois même que les gens qui vont payer le billet, on ne sait pas combien ils l'ont payé, combien ils ont payé leur raconte, mais évidemment, ils ne paient pas le prix réel, le prix fort, parce que c'est incommensurable. Même quelqu'un de très riche, vous voyez, un siège à bord d'un Soyouz, c'est 80 000 millions de dollars et ça recouvre pas toute la dépense qu'il faut. Donc le business plan est sans doute ailleurs. Il y en a sans doute un. Je fais confiance à Elon Musk là-dessus encore plus que sur le fait d'envoyer des fusées. Mais
en tout cas, l'idée c'est que vous doutez pas qu'il y arrivera au fond, mais certainement pas l'échéance annoncée.
Vous savez pourquoi je doute pas qu'il y arrivera? Parce que ça a été fait il y a 50 ans. Ouais. C'est-à-dire qu'en matière de nouveauté, bon, on refait quand même quelque chose qui a déjà été fait.
Hein? André Borschberg.
Je pense qu'on a un frein encore, je dirais vraiment au développement de l'exploration spatiale, c'est le fait qu'on embarque l'énergie du sol, de la Terre, pour vouloir aller très loin. Et tant qu'on n'aura pas résolu la possibilité de collecter cette énergie tout au long du vol, ça sera encore très difficile. Difficile d'aller sur Mars. Ouais. C'est ce qu'on a essayé de faire avec Solar Impulse. Alors, toute proportion gardée, c'est clair, c'est différent. Mais le but était d'avoir un avion qui puisse voler pratiquement de manière éternelle. Ouais. Et c'est ce qu'on a fait avec le solaire. Et finalement, c'est dans cette direction qu'il faudrait réfléchir pour le développement des voyages spatiaux sur les longues distances et les longues durées.
En fait, Bertrand Piccard, c'est ça la vraie idée, c'est d'inventer une fusée avec que des panneaux solaires, quoi. Ça, ce serait formidable, non?
Oui, mais... Ça sert à quoi d'avoir une fusée avec que des panneaux solaires si on n'utilise même pas les panneaux solaires au sol de notre vie de tous les jours? Et je crois qu'il faut bien voir que l'exploration est là pour nous tirer en avant de notre vie de tous les jours et de notre société habituelle. Et c'était le but de Solar Impulse. Finalement, c'était pas de montrer que le solaire marchait. Tout le monde sait que le solaire marche. C'est beaucoup plus pour donner envie de l'utiliser. Et montrer qu'aujourd'hui, ce qui manque, c'est des technologies efficientes qui permettent d'économiser tout le gaspillage d'énergie qu'on a aujourd'hui. 50% du CO2 n'est pas forcément dû à notre mode de vie, il est dû à toutes les vieilles technologies qu'on utilise encore et qui sont polluantes et inefficientes et qu'on devrait remplacer. Si on les remplace, ça crée des emplois, ça fait du profit et en même temps, ça protège l'environnement. C'est ça le message de Solar Impulse.
Bon, en tout cas, les paris sont lancés pour Elon Musk et la Lune. Hein, Philippe, si jamais il y parvient...
Je viendrai faire
mes plates excuses. Avec des plumes,
s'il y parvient avant la fin de 2018, oui, je viendrai faire mes plates excuses. Mais je suis prêt à parier, je tiens le pari.
On note.
Merci beaucoup à vous en tout cas. Et puis on retrouve ces infos évidemment dans Ciel et Espace. À bientôt Philippe, merci beaucoup. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, les dinosaures géants avaient des vertèbres imbriquées les unes aux autres comme des pièces de puzzle, et cela pour ne pas rompre leur cou à chaque mouvement. Cette découverte faite par un scientifique du Michigan permet enfin de comprendre comment les sauropodes, ces dinosaures énormes qui pouvaient atteindre plus de 50 mètres de long et 80 tonnes, maintenaient leur lourde tête à plus de 20 mètres de haut en étudiant les os de la colonne de ces géants dont la croissance terminait à l'âge de 20 ans. Eh bien, ce chercheur a remarqué qu'à l'inverse des hommes, les jointures entre les différentes parties des vertèbres n'étaient pas lisses mais sinueuses et s'imbriquaient parfaitement les unes aux autres. Une particularité qui permet donc à la colonne de garder une solidité à toute épreuve, même pendant la croissance. Lorsque vous écoutez quelqu'un parler, vos deux cerveaux se synchronisent. Cette drôle de découverte vient d'être révélée par des chercheurs de l'université de Drexel aux États-Unis. Les scientifiques ont placé deux personnes volontaires dans deux IRM. L'un racontait une histoire en lien avec sa vie, tandis que l'autre l'écoutait. Eh bien, les IRM montrent que les deux zones des cortex préfrontaux et pariétaux en activité chez le conteur et chez l'auditeur étaient exactement les mêmes et au même moment pendant la narration. Condition néanmoins, les volontaires devaient parler la même langue et se comprendre pour que les résultats soient bien sûr mesurables. Et puis pour la première fois, des océanographes mesurent de fortes fuites de méthane naturel dans les eaux tropicales. Ce gaz à effet de serre bien plus réchauffant que le CO2 est aussi plus dur à traquer dans l'atmosphère. Pour connaître la part humaine dans les émissions globales de méthane, il fallait d'abord quantifier correctement les émissions naturelles. Et pour la première fois, les chercheurs londoniens ont mis en évidence une zone au large de Panama où les eaux pauvres en oxygène favorisent le développement de micro-organismes émetteurs de méthane. Une mesure qui pourrait servir de référence pour d'autres et pour une meilleure compréhension du cycle mondial du méthane. Allez, un tour du monde en panneau solaire, justement, Solar Impulse, dans un instant. Et Trévis, à l'instant.
La tête au carré, jusqu'à 15h, sur France Inter.
Objectif Soleil, l'aventure Solar Impulse, c'est donc le récit des aventures de Bertrand Piccard et André Borschberg qui sort aux éditions Stock. Vous êtes tous les deux nos invités donc dans La tête au carré cet après-midi avec les messages des auditeurs, franceinter.fr et le mot-clé, la TAC, 43 000 km autour du monde sans une seule goutte de carburant. On le disait, vous êtes entré dans la légende le 26 juillet dernier au fond, en arrivant, en vous posant sur l'aéroport d'Abu Dhabi. Alors justement Bertrand Piccard, parce qu'on parlait d'Elon Musk tout à l'heure, petite précision, c'est l'un des parrains justement de Solar Impulse.
Elon Musk est un des parrains de Solar Impulse, ouais. Tout à fait, on avait un comité de parrainage.
Ouais. Donc ce sont les parrains qui croient en des projets un peu fous aussi quand même. Hein.
Oui, vous savez qu'on en a besoin, parce que quand on lance un projet comme Solar Impulse et qu'on est exposé au sarcasme de tous ceux qui n'imaginent pas un avenir différent que leur présent, c'est parfois un peu lourd. Ouais. Alors avoir Elon Musk avec nous, Richard Branson, avoir le prince de Monaco... avoir des Paolo Coelho dans tous les domaines différents, on avait Buzz Aldrin, tout ça, ça nous réconforte dans notre solidité de pionnier, dans notre force de rêve.
Ouais. André Borschberg, il faut déployer beaucoup d'énergie justement pour aller jusqu'à 13 années de projet hein, quand même avant de réaliser ce tour du monde.
Énormément.
Il faut être solide.
Hein. Énormément. D'un côté, je pense qu'il faut une bonne idée, faut une bonne idée qu'on puisse partager, qui soit bien comprise, qui est un but, qui est une utilité, qui soit quelque chose de fort. Et ensuite, il faut de la persévérance, il faut de l'énergie. Et la meilleure manière pour moi de définir ce que ça veut dire énergie, c'est la capacité de rebondir d'un problème vers le prochain. Parce que c'est vrai qu'on voit depuis l'extérieur les succès, mais on ne voit pas les problèmes, on ne voit pas les échecs, on ne voit pas les obstacles. Ouais, il y en a beaucoup.
C'est l'art de dénouer, de trouver des solutions aussi.
C'est l'art de ne pas rester plombé dans le problème pour essayer de le résoudre, de prendre un petit peu de distance, de voir quelle nouvelle situation ce problème crée, quelle opportunité ça peut générer et l'utiliser.
Ouais. Bertrand Piccard, c'est avant tout une aventure technologique, évidemment, mais j'allais dire surtout une aventure humaine entre vous deux. Parce que votre duo, évidemment, il fonctionne parce que vous êtes deux singularités, deux caractères différents, deux expériences aussi. Et alors, vous livrez des choses très personnelles, d'ailleurs, de vos rapports, qui n'ont pas été toujours simples. On a une image comme ça, très heureuse de ce tour du monde, en deux étapes, en deux grandes étapes en tous les cas. Ça a été difficile par moments aussi. Ça a été ça, dénouer aussi les problèmes, aller de solution en solution, ensemble.
Oui, et en fait, c'est le but de notre livre, parce que mettre une image lisse de surhommes qui réussissent leur exploit, c'est totalement contre-productif. Ça donne l'impression au lecteur que lui n'y arrivera jamais et que nous, on est arrivés parce qu'on est mieux que le lecteur. On veut montrer l'inverse. On veut montrer qu'on a traversé des difficultés, des doutes, des moments de peine, et que c'est en les acceptant qu'on a réussi notre rêve.
Ouais.
Et que le lecteur, finalement, il est comme nous. Il a ses rêves, il a ses projets, il a ses ambitions. Et s'il accepte de passer à travers, par moments, vraiment des difficultés, il y arrivera. Le rêve, on peut l'atteindre, mais ça ne vient pas tout seul. C'est difficile, il faut travailler pour.
Ouais.
Mais si on sort de sa zone de confort, qu'on accepte d'être un explorateur, on y arrive.
On en reparlera tout à l'heure, parce que vous évoquez vraiment une certaine rivalité à un moment qui aurait pu faire capoter, d'ailleurs, pourquoi pas, le projet. Donc c'est l'idée aussi de voir comment on s'en sort quand on est comme ça, ensemble, en duo, sur d'abord un appareil monoplace, hein, parce que c'est quand même aussi l'objet de cet avion.
Oui, ça aurait pu être le sous-titre du livre. Ouais. Au lieu d'Objectif Soleil, on aurait mis deux hommes pour un seul avion.
Oui, c'est ça. D'ailleurs, ça fait l'objet d'un titre, hein, d'un des chapitres. Qu'est-ce que vous prouvez aussi aujourd'hui, en 2017, que finalement, c'est plus difficile de faire un avion avec des panneaux solaires pour faire un tour du monde que d'envoyer, justement, on parlait d'espace tout à l'heure, une sonde aux confins du système solaire? C'est quand même sidérant, non, ça?
Vous savez, il y a des technologies qui existent depuis longtemps. Les sondes spatiales, les fusées, ça fait 50 ans que ça existe. Un avion qui est 10 fois plus léger au niveau structure que tous les autres avions qui existent, qui a 72 mètres d'envergure pour le poids d'une voiture, qui fabrique sa propre énergie pendant qu'il vole, qui peut atteindre le lever de soleil suivant avant que les batteries soient vides et puis voler perpétuellement, ça n'avait jamais été fait. C'est pour ça que tous les spécialistes ont pensé qu'on n'y arriverait jamais.
Oui, pourquoi justement ça n'a jamais été fait, André Borschberg? Pourquoi c'est plus difficile au fond de réussir un tel tour du monde plutôt que d'envoyer une sonde à des milliards de kilomètres de nous?
Parce qu'on a l'habitude de travailler sur ce qu'on connaît, sur ce qu'on sait faire. On a travaillé dans l'industrie de l'aviation beaucoup sur de l'optimisation. Si vous prenez les avions de transport des années 50, le premier quadriréacteur, c'était le 707 de Boeing, si je me souviens bien. C'est le début des années 50. Vous le comparez à un Airbus 340 ou 380, peut-être un petit peu plus grand. Mais finalement, c'est la même technologie, c'est les mêmes principes, c'est la même forme, c'est les mêmes types de moteurs. Bien sûr qu'on a économisé du carburant, bien sûr qu'on est un peu plus silencieux, qu'on a une meilleure vidéo à l'intérieur, mais c'est la même chose, on a optimisé. C'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte dans le domaine aéronautique, on a la possibilité, on va vers une situation de rupture. Mais il faut la créer. Et le rôle du pionnier, finalement, c'est d'essayer de montrer ce qui est possible, peut-être montrer un autre chemin. Ce n'est pas encore la solution que tout le monde va utiliser, c'est évident. Mais en tout cas, d'amorcer quelque chose. Et c'était aussi un début de Solar Impulse.
Ouais. Et le début et la fin de Solar Impulse, c'est en fait le début d'une nouvelle aventure. Vous dites que tout commence maintenant, au fond, Bertrand Piccard. Hein.
C'est vrai que c'est comme ça que le livre finit.
Vous avez réalisé votre rêve. Bon, ça y est, c'est fait, mais maintenant, tout doit commencer.
Exactement. Le tour du monde est fait. Il a crédibilisé ses technologies propres et efficientes. Maintenant, le but, c'est de les promouvoir, c'est de les propager, c'est de les mettre en œuvre. Donc la Fondation Solar Impulse, maintenant, s'est engagée à amener 1000 solutions rentables et efficientes pour protéger l'environnement d'ici fin 2018. Et pour ça, nous créons l'Alliance mondiale des technologies efficientes. Et c'est une manière de regrouper tous les porteurs de solutions qui sont souvent négligés, oubliés. C'est parfois des petites start-up, c'est parfois des grandes entreprises, mais dont les technologies ne percent pas sur le marché. On veut vraiment maintenant favoriser leur implémentation et leur connaissance aussi sur le plan politique, parce que c'est quand même là
donc,
le monde
projets,
politique
qui décide. 1000 projets, là.
1000 projets.
Pour les deux années à venir.
Dans 1000 solutions. Parce que vous savez, quand on parle d'environnement, aujourd'hui, on parle toujours des problèmes. Mmh. Et quand on parle du changement climatique, on fait la liste de toutes les catastrophes qu'on aura devant nous. C'est pas ça qui stimule les gens. Il faut montrer des solutions, il faut montrer qu'elles existent, et qu'en plus, elles sont rentables, qu'elles soient créatrices d'emplois et de profits. À partir de là, les gens commenceront à les utiliser et l'environnement y gagnera.
Ouais. Donc il y a peu de temps pour les trouver, ces 1000 solutions, André Borschberg.
Non, mais on est un petit peu comme Elon Musk, on a même des objectifs aussi agressifs. Ça fait partie de ce type de projet. On l'a eu aussi avec Solar Impulse. On pensait voler autour du monde en 2009, donc ça a pris plus de temps qu'on pensait.
Ouais, ça, c'est une façon de stimuler les esprits aussi.
Je crois que l'homme a besoin d'avoir un objectif temps qui soit pas trop éloigné parce que c'est concret. C'est en relation par rapport à ce qu'on fait habituellement. Donc, si vous avez un projet qui dure 10-15 ans, personne n'arrive à s'identifier à ça.
Ouais. Bertrand Piccard, c'est votre grand-père, Auguste Piccard, qui déjà avait préconisé le fait de remplacer le carburant par l'énergie solaire. Quand même. Donc, au fond, vous avez réalisé le rêve de votre grand-père.
Oui, c'est vrai. Il avait fait le premier vol stratosphérique en 1931, c'est le premier qui a vu la courbure de la Terre de ses propres yeux. Et quand il est revenu sur Terre, il a vraiment dit que le but maintenant, c'était d'améliorer la qualité de vie sur cette planète. Et c'était un grand adepte de protection d'environnement et d'énergie solaire, de pompe à chaleur. Toutes ces technologies qui ont été mises en sommeil pendant beaucoup trop longtemps avant de commencer à renaître maintenant.
À titre personnel, donc, et dans votre intimité familiale, ce que vous venez de réaliser avec ce tour du monde Solar Impulse, c'est aussi très important?
Oui, parce que c'est l'aboutissement du rêve que j'ai toujours eu et que j'ai toujours vu chez mon père et mon grand-père de concilier l'exploration scientifique et la protection de l'environnement. Mmh. Et c'est ma participation à cette dynamique familiale.
Ouais. Auguste Piccard, on va écouter justement ce document qui date de 1955 et entendre sa voix.
Et maintenant, nous avons le plaisir d'avoir aujourd'hui dans nos studios, accompagnés des responsables de l'association Auvergne Loisirs, Monsieur le professeur Piccard, universellement connu pour ses périlleuses explorations scientifiques dans la stratosphère et au fond des mers. Monsieur le professeur, tout d'abord, si nous voulons respecter la chronologie de vos explorations, nous devons faire un bond en arrière pour parler du ballon stratosphérique et de vos ascensions dans la stratosphère qui vous ont valu une célébrité mondiale. Pouvez-vous, monsieur le professeur, nous dire quelques mots de ces ascensions ?
Oui, parfaitement. Tout d'abord, j'aime rectifier un mot. Vous venez de parler de périlleux. Je n'aime pas ce mot parce que le sport du physicien, de l'ingénieur, ce n'est pas de faire quelque chose de périlleux. C'est au contraire d'éviter tout danger. Et si je suis monté dans la stratosphère, descendre dans le fond des mers, c'est parce que j'avais l'impression qu'il n'y avait là plus aucun danger.
Bertrand Piccard, vous connaissiez ce document ?
Non, je ne connaissais pas celui-là, mais je sais que c'est un des grands arguments de mon grand-père et ensuite de mon père. Ils avaient une foi dans la technologie absolument totale.
Ouais. Donc ça veut dire qu'ils n'aimaient pas la prise de risque, parce qu'on entend la prudence aussi d'Auguste Piccard dans cet extrait-là.
Mais c'est-à-dire que lui, c'était le physicien pour qui la technologie faisait tout. Moi, je suis le psychiatre et le côté émotion, le côté humain prend plus d'importance pour moi que pour mon grand-père et pour mon père, c'est vrai.
André Borschberg, vous dites justement à quel point d'abord vous recherchiez, vous, un projet avant que tout commence, avant même la rencontre avec Bertrand Piccard, vous aviez besoin aussi de vous dépasser et de flirter avec les limites. Alors ça va un peu à l'encontre de ce que disait Auguste Piccard, justement. Vous avez eu l'impression, pendant ce tour du monde Solar Impulse, de flirter avec les limites, voire avec le danger de temps en temps ?
Pas dans le sens périlleux qui est utilisé dans ce document, mais plutôt de trouver un bon équilibre entre rester conservateur justement pour ne pas prendre de risques, mais aussi oser à certains moments aller peut-être au-delà de ce qu'on sait faire, parce que vous ne découvrez rien si vous n'essayez pas. Et ça vous force d'aller peut-être un petit peu à l'extérieur du domaine que vous connaissez. Et cet équilibre n'est pas facile à trouver. On l'a vu dans le vol entre le Japon et Hawaï. L'équipe d'ingénieurs ne voulait pas que nous continuions. L'avion avait un petit problème technique. De l'autre côté, c'était la première fois qu'on voyait la fenêtre météorologique s'améliorer. Et donc, le risque global, finalement, du projet diminuait. Mais en regardant seulement l'aspect technique, c'est vrai que la décision de l'ingénieur ou la réaction de l'ingénieur était tout à fait compréhensible, c'est sa responsabilité. Et on a eu à ce moment-là le choc de ces deux vues, le choc de ces deux perspectives, et ça a été très difficile, ça a créé un drame au sein d'équipe. Une partie des ingénieurs ont voulu démissionner à ce moment-là, pendant que j'étais en l'air. Donc c'est ce genre de problématique qu'il a fallu résoudre, et c'est cet équilibre qu'il a fallu trouver tout au long du projet pour ne pas finir comme Icare et se brûler les ailes auprès du soleil.
Alors que c'était un vol extraordinaire d'ailleurs après ce moment de tension justement et de doute.
Oh, c'était un vol extraordinaire pour plusieurs raisons. C'était la démonstration que ça marche, qui était vraiment le but. Capable de voler 5 jours, 5 nuits, c'était personnellement un des hauts moments et un des grands moments de ce projet-là, de pouvoir découvrir ce que c'est d'être dans un avion qui vole simplement avec l'énergie solaire, de voir les rayons toucher des ailes. À chaque moment, et donner suffisamment d'énergie pour voler la journée, mais aussi voler toute la nuit, de découvrir comment ce qu'il faut finalement vivre pour être aussi soi-même durable, puisque l'avion est devenu durable dans sa consommation d'énergie. Donc c'est vrai que c'était une exploration autant scientifique que personnelle.
Ouais, vous aviez envie de vous transcender, c'est ce que vous écrivez aussi, et trouver une bonne idée. Vous dites, elle a mis 30 ans avant d'arriver, cette bonne idée en ce qui vous concerne.
Bon, je pense que c'est dû à la rencontre aussi avec Bertrand. J'ai lu, comme tous les enfants de l'époque, on n'avait pas beaucoup de films, plutôt des livres sur les pionniers. C'est vrai que ça m'a fasciné. J'ai travaillé ensuite dans le domaine de l'innovation comme entrepreneur. Et finalement, quand j'ai approché les 50 ans, j'ai rencontré Bertrand qui avait cette idée absolument extraordinaire d'essayer de voler sans la dépendance des énergies fossiles, vraiment avec du renouvelable, de manière presque illimitée. Et ça a été comme ouvrir une porte sur un monde où le monde merveilleux dont j'avais rêvé dans mon enfance. Donc c'est ça que j'entends peut-être par transcender, c'est rentrer dans quelque chose que j'ai imaginé, qui était formidable, qui était important pour moi. Et c'est cette rencontre avec Bertrand qui a ouvert cette possibilité.
C'était l'idée d'un grand projet autour du développement durable. Solar Impulse devait incarner le développement durable, Bertrand Piccard.
Oui, et l'incarner de manière positive. Parce que si vous remarquez, la protection de l'environnement, depuis très longtemps, a surtout été axé sur la lutte contre la mobilité, contre le confort, contre la croissance, contre l'industrie, contre la consommation, contre un peu tout, pour protéger la nature au détriment de l'être humain. Moi, ce que je voulais montrer, c'était le contraire. C'était qu'on pouvait protéger la nature tout en valorisant l'être humain, tout en ayant une croissance propre plutôt qu'un statu quo sale.
C'est pas l'écologie punitive, au fond.
Mais absolument pas. Il fallait mettre un côté enthousiasmant, il fallait mettre un côté sexy dans les énergies renouvelables, montrer qu'on pouvait faire des choses a priori impossibles. Donc, à un moment donné, c'était un pari un peu fou, parce que on remarquait bien avec André que si nous rations pour une autre raison que l'énergie, on pouvait rater parce que l'avion aurait été pris dans une turbulence, parce que un problème de carbone aurait cassé sur une aile ou un truc comme ça, on aurait pu rater, et tout le monde aurait dit, vous voyez, leur truc d'énergie, ça marche pas. Donc, c'était un peu un quitte ou double. Mais ça a marché, et maintenant plus personne ne peut dire que l'énergie renouvelable est anecdotique, que ça marche que dans certaines circonstances. Non, on l'a poussé au maximum, on l'a poussé dans l'application ultime, et c'est ça qui a frappé.
Et c'est ce récit à quatre mains, l'aventure Solar Impulse, Objectif Soleil, aux éditions Stock. Les questions des auditeurs pour vous dans un instant.
C'est comme si c'était hier. Comme si l'endroit faisait l'envers. Comme si les images s'arrêtaient. Et que les belles heures défilaient. C'est comme si c'était demain. Comme si le soir venait le matin. Comme si la grande roue tournait. Que l'horloge s'enrayait. C'est comme si c'était le moment. Comme si l'après pointait l'avant. Comme si qui sera était. Et que la mécanique s'essoufflait. Le temps passe, on l'évite. Passons pas trop vite. Le temps passe, on l'évite. Ne passons pas trop vite. C'est comme si c'était fini. Comme si la mémoire servait l'oubli. Comme si nos rêves souvenaient pas. Et que le réveil ne sonnait. passons pas trop vite. Le temps passe, on l'évite, ne passons pas trop vite.
Lady Sœur avec Le Temps Passe, et vous pouvez d'ailleurs retrouver dès maintenant et en exclusivité sur le site de France Inter la session acoustique de ce titre, Je ne me souviens pas, extrait du nouveau projet de Gaëtan Roussel et Rachida Brakni.
La tête au carré, Mathieu Vidard.
Dick, Nils d'André, on est en train de démarrer.
Pour ce premier vol, c'est André Borschberg qui est aux commandes de l'appareil. Destination, le Sultanat d'Oman, situé à près de 800 km. Un vol de 13 heures réalisé sans aucune goutte de carburant.
Main wheel lift off.
Ouais ! Beau vol, André, mon ami, mon frère solaire.
Merci Bertrand, je penserai à toi chaque minute ici et je penserai à toute l'équipe. Hein.
Incroyable, incroyable, un matin aussi long que les 12 dernières années.
Absolument, mais on est en l'air, c'est absolument génial.
Fabuleux! Bon vol! À tout à l'heure!
Merci.
L'avion part dans cette direction. Si tout va bien, dans 5 mois, il reviendra dans l'autre direction, après avoir fait tout le tour.
Et il l'a fait avec ce premier vol, donc c'était en mars 2015, Bertrand Piccard et André Borschberg, nos invités cet après-midi. Votre frère solaire, Bertrand Piccard, dites-vous. Ça, c'est la version apaisée, au fond, de vos relations, qu'on voit d'ailleurs beaucoup dans le film. C'est-à-dire qu'on a une image vraiment, vraiment d'harmonie entre vous, tout va bien. Et dans le livre, on a une autre version, en fait, que vous livrez, puisque c'est écrit vraiment à quatre mains, avec vraiment des moments de tension très, très forts et de rivalité, hein, Bertrand Piccard.
Oui, oui, oui. Mais ce qu'on a appris, c'est que grâce à nos différences, nous arrivions à être beaucoup plus forts. On n'aurait pas pu, ni André ni moi, réussir un projet aussi gigantesque si on était tout seul. Parce qu'on ne peut pas avoir toutes les solutions et toutes les idées soi-même. C'est dans notre différence de potentiel, c'est dans les étincelles, les courts-circuits parfois entre sa polarité et ma polarité qu'on a réussi à trouver les solutions. Et je crois que la conclusion là-dedans, c'est que quand on est en rivalité avec quelqu'un, il ne faut pas vouloir être plus fort que l'autre, il faut vouloir être meilleur que soi-même. Ce qui fait que l'autre est toujours un stimuli pour s'améliorer. Et c'est ça qui a créé notre amitié, une amitié tellement forte parce que nous nous sommes fait évoluer mutuellement.
Oui, mais comment vous avez désamorcé tous ces moments de tension, André Borschberg, qui était là au quotidien à un moment, hein, il y a eu la première conférence de presse où entre vous ça n'allait vraiment pas. Comment vous avez fait? Vous avez beaucoup parlé? Vous avez essayé de déminer à chaque fois qu'il y avait un souci?
Comme un couple devrait le faire, effectivement, s'asseoir, discuter, expliquer finalement sa propre, pas seulement sa propre position, mais ses propres sentiments, sa propre vue, finalement, sa propre vision de la situation. Et je pense, de part et d'autre, on savait que c'était important d'écouter, on savait que c'était important de trouver une solution. Mais il a fallu le faire souvent, et on l'a fait souvent. Mais qu'on se comprenne bien, hein, c'est vrai qu'on a fonctionné comme un couple, mais on est les deux mariés, on a les deux des enfants, moi j'ai des petits-enfants. Donc,
Mais c'était quoi le problème au fond? C'était de savoir d'abord qui allait prendre les commandes, à quel endroit, quand, qui allait commencer, qui allait terminer. Il y avait vraiment ça aussi
Vous savez, André et moi, on venait de deux directions totalement différentes. Moi, j'étais pilote de ballon, avec deux générations d'explorateurs derrière moi, mais je n'étais pas pilote d'avion. André est un des meilleurs pilotes d'avions et d'hélicoptères que j'ai jamais vu de ma vie, mais il avait aucune expérience de l'exploration, de l'esprit de pionnier et de ce genre de grands projets. Donc, il m'a apporté de quoi devenir pilote d'avion, je lui ai apporté de quoi devenir explorateur, mais il n'y avait qu'un siège dans l'avion. Donc, par moments, c'était tendu, mais c'était tendu pour moi quand je voulais piloter, mais c'était tendu pour André qui n'était pas non plus reconnu dans ce projet, parce que les médias ne s'intéressaient qu'à moi. Donc on a tous les deux souffert dans le domaine de l'autre. Et il y avait une certaine solidarité à la fin, parce que comme on en souffrait tous les deux, ben on s'épaulait, on s'est dit il faut qu'on se monte tous les deux, parce que c'est que si tous les deux arrivons à notre but que le projet va réussir.
Mais vous demandiez même comment franchir une porte ensemble, hein, quand vous aviez rendez-vous par exemple avec la presse, comment franchir le seuil d'une porte, qui devait passer le premier? C'est incroyable qu'on se pose cette question-là quand même. Hein.
Mais il faut vous imaginer la situation de départ finalement. Bertrand a cette idée. Bertrand vient après 3 ans ou 3 ans après le tour du monde en ballon avec un nouveau projet, autant même plus visionnaire que le premier. Et puis André arrive là comme conseiller, quelqu'un à qui on demande finalement de faire un certain nombre de réflexions. Mmh. Et on décide de s'associer. Mais l'association, au départ, elle est très inégale, en fait. Hein. Et cette association va se développer avec le temps vers vraiment un partenariat, mais un vrai partenariat, un partenariat d'échange, un partenariat d'aide mutuelle, mm-hmm. mais aussi un partenariat, finalement, de concurrence. Bertrand doit apprendre à partager. Moi,
vous devez apprendre à prendre la lumière aussi, vous, André Borschberg. Hein.
Peut-être, oui. Mm. Mais aussi trouver ma place. Et puis, finalement, chacun essaie de trouver sa place, pas seulement dans le cockpit, mais dans la vie du projet. Ouais. Donc, dans le livre, on explique un petit peu cette évolution et comment est-ce qu'on essaie de résoudre ces problèmes. Mais je pense que ce qui était extraordinaire, c'est qu'on partageait quelque chose de très fort. Et chaque fois, on savait que c'était très important de rester ensemble, de rester liés pour soi et aussi pour le projet.
Ouais. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de voir d'ailleurs pour des voyages comme Mars. Hein, on sait bien qu'au-delà de l'aspect technologique, c'est l'aspect humain qui fera tout sur la réussite d'un projet martien, parce qu'il faudra beaucoup de temps, un an et demi pour aller là-bas, et que l'aspect psychologique et humain compte autant d'ailleurs que les problèmes technologiques. Ah, Bertrand Piccard.
Hein. Complètement. Mais mon père m'avait déjà raconté ça quand il faisait ses expéditions en sous-marin. Il avait dérivé pendant un mois dans le Gulf Stream au large de la côte américaine avec 6 personnes dans son sous-marin. Il m'avait aussi raconté comment ça se passait. Il faut jamais essayer d'avoir le dernier mot. Il faut toujours réaliser que sa propre vision du monde n'est pas forcément la meilleure. Et que celle de l'autre, pas forcément non plus. Et que c'est la combinaison de toutes les visions du monde de l'équipe qui va arriver à une vision du monde qui sera plus harmonieuse, plus efficiente, plus performante. Mmh. Donc nos différences, c'était ce qui nous permettait d'avancer. Souvent, quand j'étais bloqué ou qu'André était bloqué, on s'appelait, on se disait « Écoute, je suis bloqué, là, est-ce que tu peux venir ?» Puis il y avait la solution de l'un, la solution de l'autre, et puis la troisième solution qu'on développait ensemble, 1 plus 1 égale 3. Mmh. Et ça, c'est quelque chose qui est, je dirais que c'est la base de la relation humaine. Tant qu'on veut convaincre l'autre qu'on a raison, on va se trouver face à un mur. Ouais, mais quand on intégrera l'expérience et la solution de l'autre, à ce moment-là, on va construire ensemble.
Ouais. Ça, c'est une découverte pour le psychiatre que vous êtes, Bertrand Piccard, franchement, sur la psychologie humaine.
Mais vous savez, beaucoup de psychiatrie est faite ou bien par des médicaments, ou bien par de la thérapie en psychanalyse. Et c'est relativement récent dans la psychiatrie et dans la psychothérapie qu'on introduise des notions de communication, des notions de relation. C'est l'école de Palo Alto, en Californie, qui a non seulement développé les premières énergies propres, mais qui a développé les premières bases de la communication humaine.
Et tout ça à l'aide de la méditation et du yoga aussi, André Borschberg ?
Ça aide à prendre une certaine distance. Le yoga vous apprend à devenir un observateur de vous-même. Et quand vous trouvez une situation qui est difficile, qui est stressante, si vous prenez un petit peu de distance, si vous prenez un peu d'élévation, finalement, vous arrivez à vous observer et peut-être à modifier votre comportement. Donc le yoga, c'est peut-être un exercice, c'est beaucoup de respiration. La respiration, c'est la vie et c'est prendre cette distance.
Bon, ça a peut-être été aussi une clé du succès. En tout cas, d'après ce que vous nous dites, ça a été un des ingrédients très importants de cette aventure Solar Impulse. Alain nous dit, est-ce que ça a été facile pour vous de trouver des financements pour votre projet? Est-ce que les financiers vous ont suivi facilement? En tout cas, félicitations. Blériot, Lindbergh doivent être fiers de vous.
C'est gentil, ça me touche.
Bertrand Piccard, qu'est-ce que vous répondez?
C'était difficile de trouver des financements parce qu'au début, j'ai été là où je pensais que c'était logique d'aller, c'est-à-dire des compagnies aériennes et des sociétés d'énergie. Et comme ils étaient très spécialisés dans leur domaine, nous avons passé pour des rêveurs, des ahuris, des abrutis avec un projet d'avion solaire qui ferait le tour du monde. Donc il a fallu complètement changer de cap et aller chercher des entreprises qui n'étaient pas du tout spécialisées dans ce domaine-là, qui n'étaient pas du tout des spécialistes du sponsoring et qui étaient prêtes à rendre notre projet possible en sachant que ça devenait aussi le leur. C'est un projet qu'on a partagé avec eux. Et on a eu l'industrie chimique, on a eu des champagnes, on a eu des ascenseurs, l'horlogerie, des assurances, Altran en France, dans l'engineering, qui se sont dit « mais voilà une occasion de stimuler l'innovation à l'intérieur même de nos équipes ». Et c'était souvent de la communication interne plus qu'externe. Donc, c'était pas du tout du sponsoring classique.
Alain faisait allusion à Lindbergh, justement, dans ce message. Charles Lindbergh et, évidemment, son entrée dans la légende en 1927 à l'occasion de sa traversée de l'Atlantique, New York-Paris.
Le bidon plein d'eau douce.
Oui.
Un livre de bord.
Oui.
Des cartes.
Oui.
Un couteau.
Oui.
Un coussin de siège.
Oui.
Deux lampes torches.
Oui.
Deux fusées d'atterrissage.
Oui.
À mon avis, vous devriez prendre un parachute, Slim.
Non, ça ferait trop de poids, 10 kilos environ, le poids de 12 litres d'essence.
On a complété les pleins, les réservoirs sont bourrés jusqu'au bouchon.
Très bien.
Essence ouverte, contact coupé.
Contact.
Deux heures. Presque 300 km parcourus. J'ai un léger vent dans le dos. Si je pouvais maintenir cette moyenne, dans 38 heures, je me poserais à Paris.
Voilà, extrait du film L'Esprit de Saint-Louis. C'était l'avion, le nom donné à l'avion de Lindbergh. 33 heures et 30 minutes pour relier New York à Paris. Vous avez vécu votre transatlantique, vous, hein, Bertrand Piccard, justement?
Oui.
Et combien de temps vous avez mis, vous, pour votre traversée?
J'ai mis 72 heures.
Ouais.
Et c'était un vol auquel je tenais beaucoup. Finalement, je crois qu'André et moi, on a chacun eu le vol dont on rêvait, en fin de compte. J'avais rencontré Charles Lindbergh quand j'avais été invité par Wernher von Braun pour voir décoller Apollo 12. En décembre 69, j'avais 11 ans.
Ouais.
Et c'est extraordinaire, ces moments où les gens dont on a lu l'histoire dans les livres d'enfants, tout à coup sont devant vous et vous vous dites « mais il n'y a pas de différence entre ce que vous rêvez et la réalité ». Et depuis ce moment-là, je me suis toujours dit qu'il n'y avait plus d'impossible, qu'il suffisait de rêver quelque chose pour y arriver à un moment donné. Donc cette rencontre avec Lindbergh, il était déjà âgé, hein, c'était plus 1927, c'était un grand monsieur avec les cheveux blancs, qui était déjà probablement un peu malade, et... ça m'a guidé et ça m'a donné du courage pour toute cette transatlantique, décoller à New York avec Solar Impulse, traverser l'Atlantique, arriver en Espagne. Puis je me suis dit, Lindbergh avait comme but d'ouvrir la voie à l'aviation commerciale. Moi, mon but, c'était d'ouvrir la voie aux technologies propres. Mais tout ça dans le même esprit de pionnier qu'il m'avait enseigné. Il m'avait tellement inspiré à l'époque.
Ouais, alors, Lindbergh vous fait rêver, mais votre père, votre grand-père vous ont fait rêver de la même manière, Bertrand Piccard, ou pas?
Oui, mais je croyais que c'était normal. Vous savez, moi, comme enfant, je pensais que construire des sous-marins, aller dans la stratosphère, aller sur la Lune, tout ça, c'était totalement normal. J'ai vécu toute mon enfance à Cap Kennedy avec les astronautes de la NASA. Donc, quand j'ai réalisé que l'exploration était une toute petite partie de l'état d'esprit habituel, j'ai été très déçu. Je me suis dit, mais pourquoi? C'est comme ça qu'on devrait vivre. On devrait abandonner nos vieilles croyances, on doit sauter dans l'inconnu, on doit explorer, on doit se dépasser, se transcender. C'est ça qu'il faut faire. Et malheureusement, ça l'est pas toujours. Et peut-être que si je suis devenu psychiatre, c'est aussi pour montrer que sur le plan thérapeutique, on peut aider les gens à aller beaucoup, beaucoup plus loin que ce qu'ils croient.
André Borchberg, cette question de Fabrice, certes, ce projet est formidable, intéressant technologiquement, mais est-ce qu'il ne serait pas mieux d'essayer de concilier et d'aménager un changement de paradigme plutôt que d'essayer de faire perdurer le système en place avec des aménagements et de la bonne conscience, concilier la croissance et l'écologie? Alors, c'est possible ça ou pas?
Moi, je pense que c'est une très bonne question pour Bertrand, puisque c'est sa vision depuis longtemps.
C'est moins la vôtre?
Non, tout à fait. Mais je pense que lui a vraiment essayé de comprendre ce qui est en train de se passer. Et ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est justement une vision écologique où on essaie de faire changer l'attitude et le comportement des gens plutôt qu'essayer de montrer qu'il existe aujourd'hui des solutions qui nous permettent d'être très économes en termes de consommation d'énergie, mais qui sont aussi des opportunités de développement économique, développement de produits, développement de postes de travail, etc. Et vraiment de voir la question sous la forme d'une opportunité et non pas de quelque chose qu'on veut et qu'on doit imposer aux gens.
Bernard demande à quand le tour du monde en avion solaire sans escale et en biplace cette fois-ci?
Il faut laisser quelque chose pour la prochaine génération, non?
Oui. Bertrand Piccard, un vrai tour du monde sans escale, alors. Parce que là, il y en a eu plusieurs, évidemment. Mais...
Là, il y en a eu plusieurs. Aujourd'hui, il faut clairement des technologies de batterie plus évoluées pour pouvoir y arriver à deux et sans escale.
Et vous le prévoyez pour quand, alors? On peut déjà se projeter dans l'avenir ou pas?
Moi, je pense que d'ici quelques années, quelqu'un le fera, c'est sûr. Mais si vous regardez dans l'histoire de l'aviation, il y a eu 66 ans entre le premier tour du monde avec escale et le premier tour du monde sans escale. Ouais. Par conséquent, j'espère qu'il y aura moins que 66 ans cette fois, mais pour l'instant, c'est pas encore faisable. Je vais pas dire c'est pas possible parce que je déteste dire c'est pas possible, mais c'est pas encore faisable facilement.
Ouais. Est-ce qu'il va revoler Solar Impulse parce qu'il est en Suisse là en ce moment?
Il est en Suisse, ouais. Il est démonté. Ouais. Il a encore un potentiel pour voler si des gens veulent le voir en vol, ouais. Et qui sont prêts à financer tout ça, on peut, mais pour l'instant
ce serait extraordinaire de le faire.
On n'a plus de financement pour le faire, ouais. Un tour du monde à ce niveau-là.
Sinon, sa place, ce sera dans un musée.
Mais sinon, c'est pas exclu qu'il vienne à la Cité des Sciences.
Ah, très bien.
Et qu'il soit exposé là-bas en remplacement du numéro 1 qui est là pour l'instant.
Ouais. Merci beaucoup à tous les deux. Bertrand Piccard, André Borge-Berg. Objectif Soleil, l'aventure Solar Impulse, c'est votre récit aux éditions Stock. Ça vient tout juste de paraître. Merci infiniment.
Avec plaisir.
La chronique de Pierre Barthélémy, en partenariat avec Le Supplément, Sciences et Médecine du Monde.
Bonjour Pierre.
Bonjour Mathieu.
Vous nous parlez salaire aujourd'hui.
Oui Mathieu, savez-vous que selon de nombreuses études, il y aurait dans le monde de l'entreprise une prime à la beauté et une pénalisation de la laideur? En moyenne, les personnes au physique avantageux gagneraient mieux leur vie que celles que la nature n'a pas gâtées. Alors le phénomène a été constaté aux États-Unis, au Canada, mais aussi en Europe. S'ils travaillaient à France Inter, Apollon et Cendrillon auraient un meilleur salaire qu'Héphaïstos et la fée Carabosse. Mais comment se fait-ce? Se sont demandés deux chercheurs en économie dans une étude qui vient de paraître. Trois explications peuvent être avancées. Première possibilité, les moches souffrent d'un véritable délit de sale gueule, d'une discrimination de la part de ceux qu'ils côtoient au travail, patrons, collègues, clients. Deuxième hypothèse, les beaux sélectionnent les carrières rémunératrices. Il faut bien payer le coiffeur, les séances d'UV, les crèmes et tout le tralala sans lequel ils se flétriront. Quant au troisième scénario, il fait appel à la théorie de l'évolution. Et si, tout simplement, les gracieuses et les gracieux étaient différents du bas-peuple? Après tout, chez beaucoup d'animaux, une belle apparence physique est un gage de santé, de force et de bons gènes. Si les beaux gagnent plus, c'est peut-être parce qu'ils le valent bien.
Comment on teste ces hypothèses?
Eh bien, nos deux chercheurs ont décidé d'exploiter une solide base de données américaine qui contient toutes sortes de renseignements sur quelques 20 000 jeunes gens recrutés en 1994, alors qu'ils avaient environ 16 ans. Cette cohorte a été suivie pendant 13 années et lors de la dernière revue d'effectifs, effectuée lorsque les ados étaient devenus des adultes de 29 ans, on leur a demandé combien ils gagnaient. Et en plus de ça, les personnes qui menaient les entretiens devaient noter l'apparence physique des sujets sur une échelle allant de 1, laideron, à 5, canon. Il y avait donc de quoi faire de jolies statistiques.
Et ça a donné quoi alors en l'occurrence?
Ça a donné deux grosses surprises. Tout d'abord, les deux chercheurs n'ont pas retrouvé la prime à la beauté. Patatras.
Bonne nouvelle.
Leurs prédécesseurs n'avaient sans doute pas pris en compte assez de variables et ils avaient donc découvert un lien de cause à effet imaginaire. Si les beaux gagnent souvent mieux leur vie, ce n'est pas forcément dû à leur physique de rêve, mais c'est peut-être lié à leur bonne santé ou à des traits de personnalité positifs. Quant à la seconde surprise, je l'appelle la revanche du crapaud. Car si les auteurs de l'étude n'ont pas retrouvé de bonus beauté, ils ont vu jaillir de leurs statistiques une prime à la laideur, mais pas pour n'importe quelle laideur. Des salaires plus élevés uniquement pour les personnes au physique le plus ingrat. Comme quoi, il y a une justice en ce bas monde. Si les études précédentes n'avaient pas détecté cette prime au crapaud, c'est probablement parce qu'elles n'avaient pas établi de catégorie assez fine et qu'elles fourraient dans le même sac le tout venant des laits avec la crème des ultra-moches.
Merci beaucoup Pierre Barthélémy. Votre chronique est à retrouver dans les pages du cahier Sciences et Médecine du Monde qui sort cet après-midi en kiosque avec également un dossier consacré à l'ADN comme possible mémoire du futur, l'ADN synthétique qui pourrait répondre en effet aux besoin croissant de stockage des données. Et puis je vous signale également le nouveau numéro de la collection Voyage dans le cosmos qui explore l'univers de l'infiniment petit à l'infiniment grand, toujours avec le monde. Cette semaine, il est consacré aux constantes universelles, une réflexion sur les théories physiques fondamentales et sur les aspects aussi pratiques que le système international d'unité. Donc Voyage dans le cosmos, proposé par le monde avec la tête au carré, c'est demain dans les kiosques. Bonjour Fabrice Drouel.
Bonjour Mathieu Vidard.
Allez, le thème d'affaires sensibles dans un instant avec vous.
L'assassinat d'Olof Palme le 28 février 1980. 6 à Stockholm, c'était le chef du gouvernement suédois. Il se promenait sans aucune escorte.
Ouais.
Voilà. Et il était tué. Nous en parlerons avec notre invité également, la journaliste Anne-Françoise Hiver, correspondante de Radio France et du journal Le Monde en Suède.
À tout à l'heure.